Ça ne signifie pas que l'hébreu ne sont pas capables de l'option grecque. Il n'y a qu'à faire ouvrir l'annuaire et vous verrez le nombre de professeurs de philosophie juive. Ils sont capables. Mais ce n'est pas l'option hébraïque. C'est ça la différence. Bien. Alors, continuons. Et lorsque notre texte avait dit 2000 ans Torah, et nous, Otselomar, Chazre Shalom, il ne veut pas dire qu'à Dieu ne plaise, Sheachach, Shne Alafim, Loïa, Torah, qu'après ces 2000 ans du temps de révélation de Torah, il n'y aura pas encore Torah. Okay? Et pas seulement que nous n'aurons pas encore à appliquer la Torah, non, c'est autre chose qu'il veut dire. Il n'y a pas encore continuation de révélation de la Torah. Mais c'est une autre dimension. C'est plus au niveau de la dimension de la prophétie, mais du roi HaKodesh, de la rémanence de la prophétie, de la Torah chez Balpé. C'est clair ce que j'ai dit là? Et ça continue jusque dans notre jour. Seulement, et là, Ratzalomar, mais il a voulu dire Kolelou j'étais à la fin. Tous ces 2000 ans, Hem Reouim la Torah, sont de nouveau Raoui, sont aptes à la Torah. Inu lonit la Torah a yede Moshe Rabbeinu alav shalom. Et si la Torah n'avait pas été donnée par l'entremise de Moïse, notre maître, que sur lui soit la paix, vous avez le mot même resh aïne, Moshe Rabbeinu alav shalom. Efshar shetinaten beilu shte alafim shana al yede acher. Il était donc possible qu'elle soit donnée à travers quelqu'un d'autre dans ces 2000 ans. Et Abal. Mais avant ce temps-là, c'est-à-dire avant le temps d'Abraham, mais après ce temps-là, il n'y a pas révélation de Torah. Il n'aurait pas été possible de révélation de Torah, même pas par l'entremise de Moïse. C'est-à-dire si Moïse avait vécu avant Abraham ou après Ezra, il n'aurait pas eu quand même révélation de Torah. Le temps normal de révélation de Torah approprié à ces 2000 ans entre Abraham et Ezra. Qui élu j'étais à la fille, mais yuchadim la Torah, bon, je retraduis, car c'est ces 2000 ans-là qui sont meyuchad, spécifiques au temps de la Torah. Et c'est ainsi qu'on nous a enseigné dans la Gemara de Sanhedrin, page 21. B. Raoui aya Ezra, Shetinate na Torah aliado. Ezra méritait, était apte à ce que la Torah soit donnée à travers lui. Et alors là revient l'humour de la Gemara. Et là, et pourquoi c'est pas lui? Sheikdimo Moshe. Moshe est venu avant lui. On a souvent une indication dans la littérature rabbinique, très souvent nous voyons dans les livres, une explication d'un chidouche. Et puis le rabbin qui a écrit ça, ajoute souvent Shouvraïti, et après que j'avais écrit ça, j'ai vu dans un livre il y a 3 siècles quelque chose d'analogue que Rabbi Antel, qui vivait 3 siècles avant moi, me l'a volé. L'a pris de moi. Et on trouve ça très souvent. Shouvraïti. Ça veut dire que la Torah aurait pu être donnée à travers Ezra, qui est la fin de ce temps de 2000 ans, mais seulement voilà, Moïse est arrivé avant. Bon, c'est que, en réalité, dans cette citation, nous avons les deux références historiques. La Torah aurait pu être donnée par Jacob, mais qui est au début de ce temps des 2000 ans, ou par Ezra, à la fin de ce temps des 2000 ans. Mais, ajoute la Gemara, la génération n'a pas mérité. Alors, je voudrais qu'on analyse un peu cette. Vous connaissez cette référence, hein? Jacob, c'est le patriarche. Hein? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Isaac? Posez-moi la question tout à l'heure si j'oublie. Mais Jacob, c'est vraiment le début du temps de ces 2000 ans de révélation possible. Ezra, c'est Esdras en français. Et donc Ezra est Néhémie de Shivat Zion à la fin de la destruction du premier temple. Et alors là, la réponse est la suivante. Et la génération n'a pas mérité. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire qu'il s'agit uniquement de la génération d'Israël. C'est la génération de l'humanité entière. Et l'exemple est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers Jacob, on aurait pu recevoir la Torah? Torah, Tzivalanu Moshe, Morasha, Akilat, Yaakov. Davka, et que la génération n'a pas mérité. Tous les enfants de Jacob étaient des tzadikim. C'est clair ? Toute la génération humaine n'a pas mérité. Parce que notre histoire, c'est aussi une dimension de la messianité. L'histoire d'Israël est reliée à l'universel humain. Et ça veut dire que si c'est au temps de Moïse, au temps du Moïse, du temps de Moïse, au temps de ce Moïse-là, du temps de Moïse, que la Torah a pu être donnée, c'est parce que nous étions les Hébreux de cette civilisation-là d'où nous sommes sortis. C'est le mérite de la génération humaine de ce temps-là. N'ayez pas remarqué que ce pharaon est un personnage de la Torah. Et on s'en occupe. Alors qu'on ne s'occupera pas tellement de Khomeini. Autant c'est le même personnage, mais c'était autre chose. C'était une autre civilisation. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? De la même manière, j'en parlerai ce soir, que notre sortie d'Égypte se fait du dedans, notre sortie d'Égypte actuelle, contemporaine, se fait du dedans d'une certaine civilisation et pas une autre. Il s'agit de se mériter relié à l'univers humain. Et comme on dit dans le dicton populaire, les juifs ont les goïms qui méritent, mais les goïms ont les juifs qui méritent. C'est réciproque. Vous comprenez le problème ? Alors nous verrons ce qui s'est passé en Europe au temps de Herzl. C'est parallèle à ce qui s'est passé en Égypte au temps de Moïse. Bien. Alors, je peux donc continuer ? Vous voyez ce problème du mérite. Alors, il me reste cette question. Pourquoi nous dit-on Jacob aurait pu être le transmetteur de la Torah, et pas Isaac et pas Abraham ? Qui a la réponse ?
Torah Tzvi Anu Moshe.
Mon Hachem qui l'a fait à Jacob, ça c'est le verset, oui. c'est la question. Qui a la réponse ? On a étudié ça à Marianne, ça leur explique. Attends, pas plus fort. Très bien. Vous avez compris ? C'est-à-dire que Abraham n'est pas encore Israël. Il porte en lui une clipa qui s'appelle Ishmaël. Isaac n'est pas encore Israël. Il porte en lui une clipa qui s'appelle Esaü. Il faut arriver à Jacob pour que Isaac et Abraham soient d'Israël. Donc, Torah Tzivah Lanu Moshe, Morasha, Kila, Yaakov, Dafka. Oui, mais ça commence à Abraham. C'est pourquoi les dates de ces 2000 ans nous sont données avec comme repère Abraham, Ezra. Pendant ces 2000 ans-là, la Torah pouvait être révélée. Elle a été révélée au temps de Moïse à cause du mérite de la génération. Mais ce n'est pas seulement la génération d'Israël, c'est la génération de l'humanité. Et c'est clair ? Je vous donnerai une référence pour cette référence. C'est dans le 5e chapitre des Pirkei Avot, 10 générations d'Adam à Noach, 10 générations de Noach à Abraham, c'est les générations d'humanité entière. Dordor et Dorchar, Dordor à Hamas. Top. Et peut-être j'ajouterai une deuxième explication que nous donne le Maharal dans vous rattachez. C'est le fait que la descendance d'Abraham à qui les promesses ont été faites, ça passe par Abraham et Isaac, mais ça concerne Jacob. Uniquement. Un des indices qu'explique le Maharal, c'est que l'exil, l'éventualité de l'exil, n'a pas commencé à Abraham, n'a pas commencé à Isaac, ne commence qu'avec Jacob. Parce que toutes les promesses de la Torah, de la terre, de l'Eretz Israël, de l'Eretz Knan, et du monde à venir, sont reliées à la descendance d'Abraham qui accepte l'éventualité de l'exil. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'un exil perpétuel. Dès le premier verset, on nous dit, c'est un temps fixe, après il y a le retour. Or, ni la descendance d'Abraham par Ishmaël, ni la descendance d'Isaac par Esav n'ont jamais connu ce que c'est que l'exil. Ils ont voyagé partout, mais en conquérant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et par conséquent, si Abraham était descendu en Égypte, et l'exil avait commencé avec lui, Ishmaël aurait pu dire, je fais partie, je suis dans le coup de la famille. Non, Ishmaël n'a jamais connu ce qu'est la galoute. Il a voyagé partout, mais en conquérant partout. Il continue d'ailleurs. C'est la conquête économique, mais c'est la suite de la conquête. Et de la même manière de Esav. Esav a voyagé partout. Rome est allée partout. Vous connaissez ce dicton, Rome n'est plus la Rome. Oui, puisqu'elle est partout, dans ses colonies. mais jamais comme, dans la dimension d'exil. Seule la descendance de Jacob a connu ce que l'exil, et c'est seule à la descendance de Jacob qu'appartient la Torah, la terre et le monde à venir. Et à ceux qui s'adjoignent à la descendance de Jacob, bien sûr. C'est clair, mais ni à l'indice Ishmaël, ni à l'indice Esaü. Bon, tout ceci est à relier à notre problème. Alors je continue.
J'ai beaucoup de questions après.
Oui, oui.
Dans les trois matzot de
Pessah, plus fort pour tout le monde.
Dans les trois matzot de Pessah, c'est la matzah du milieu que l'on coupe pour la picomane et pour. Donc je pense que ça a un rapport avec le milieu qui est la Torah. Parce que à Pessah, qu'on a trouvé d'Égypte, c'est que c'est une suite.
Très très bien. Ça veut dire l'essentiel du fait de la matzah et celle du milieu. Très 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 bien. Bon. Alors je continue. Je vais vous dire, qui est Ezra? Eh bien, s'il vivait au temps de Moïse, eh bien, c'est lui Moïse. Et qui est Moïse? S'il vivait au temps d'Ezra, c'est lui Ezra. C'est pas difficile à comprendre. J'ai raconté une blague de l'histoire des critiques littéraires. Vous savez qu'il y a toute une thèse que Shakespeare n'a pas existé. Shakespeare n'a pas existé. Bon, alors qui a écrit ces livres? Eh bien, c'est quelqu'un qui a signé sous le pseudonyme de Shakespeare. Peut-être c'est lui Shakespeare, non? C'est ça. C'est comme pour le Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui a écrit le Zohar? Sûrement pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que ce serait trop simple, on ne pourrait pas faire de thèse, de doctorat sur la Kabbale. Et on ne pourrait pas gagner sa vie avec le Zohar. Mais alors donc, c'est quelqu'un qui a pris le pseudonyme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, et bien peut-être c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Vous voyez à peu près le problème. Non, je crains que cette fois-ci, je ferai ça après. Donc, alors on continue. Il n'y a pas de questions, pardon? Il n'y a pas d'autres questions? Oui, pour revenir à Shakespeare. J'avais envie de dire un jeu de mots. C'est que, avant d'exister, il a dit « j'expire ». Moi ? Ah, ça tient d'origine irlandaise, non ? Un vrai juif, quoi. Tiens. Par rapport à la matérialité exprimée en termes de réalité. Et c'est le plus réel, mais ce n'est pas ce réel dispersé qui est soumis à l'érosion, qui est à travers l'espace et le temps, qui est soumis à la mort. Et c'est le point de jonction, si vous voulez, entre notre réalité provisoire à travers l'espace et le temps, nécessaire, parce qu'il y a une finalité, il faut passer par là, et la vérité, l'éternité, l'être vraiment, et non pas seulement l'existence comme on a vu hier.
Oui, parce que je suis sûr, on a une image égocentrique de quelque chose de ramassé.
Il faut. Vous savez, c'est ça le sens du problème. Dans le Talmud, il y a un enseignement très important. Chacun doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Bon, et ensuite on ajoute, ne sois pas fou. C'est pas le même, hein. Est-ce que j'ai dit moi ou vous l'avez ajouté quand on a pas... J'ai dit. Mais enfin, vous avez fait une relation avec d'autres choses qui sont réelles, mais je ne sais pas si j'ai encore dit cela. Pas déjà. Hein. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais l'expliquer ce soir. Ça touche au sujet de ce soir. Nous sommes en propédeutique. C'est qu'un Messie qui revient, eh bien, il vient s'il veut. Tandis qu'un Messie qui vient, il vient parce que je veux. C'est la différence.
Mais vous avez dit que quand on n'a pas mérité, justement, parlant de celui qui
Non, j'ai dit que s'il est venu au début du temps, sans qu'on le mérite, oui, c'était une phrase,
vous avez raison.
Et ça, il n'y a pas de doute, puisque la théologie chrétienne va nous dire tout de suite dès le début, il n'y a plus à mériter. C'est une grâce.
Oui, mais alors justement, je vous
Je crois pas. Je crois pas, mais je vais vous dire. Et attendez, c'est pas si simple que ça. Attendez, j'ai répondu à Brûle-Pourpoint. Je veux dire, me revient une image de notre maître, M. Gordner, c'est à 15 cm du rivage, on peut encore se noyer. Mais c'est à 15 cm du rivage. C'est plus à 3 km. Vous comprenez la réponse? Je crois que le moment où il faut le plus ne pas perdre patience, c'est à la fin. Au début, c'est la patience.
Si le mérite n'est pas plus grand, on est à peu près dans la même situation.
J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que le monde est meilleur, mais il faudrait analyser, parce qu'en certaines choses, il est bien meilleur. En d'autres, bon, allez. Mais c'est autre chose. Mais je veux dire que cette image des douleurs de l'accouchement, c'est une image messianique clé, centrale, au milieu. Okay? C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est au moment où ça va se passer qu'il ne faut pas perdre patience. Parce qu'on risque de perdre tout le mérite de l'histoire si, à la fin, ou en d'autres termes, bon, c'est le langage militaire qui me revient, il ne faut pas perdre la dernière bataille. Oui. Oui.
Quelle relation y a-t-il entre
l'élagement
d'Israël nécessaire pour que ça commence avec
Jacob? Attendez, c'est pas l'élagement d'Israël, c'est
l'élagement
d'Ishmaël et d'Esaü.
Et le fait que Jacob réalise la traité entre la justice et la charité.
C'est la même chose. C'est la même chose.
Non seulement au niveau de l'élagement d'Israël, mais de l'université humaine.
Oui, c'est la même chose. Écoutez, un descendant d'Abraham qui ne serait que l'homme d'une vertu, celle d'Ishmaël, c'est pas Israël. Un descendant d'Isaac qui serait que l'homme de l'autre vertu, c'est pas Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire, qui descendant d'Abraham et d'Isaac n'a pas eu le courage d'être Israël? C'est ceux qui se sont satisfaits d'un dualisme des valeurs. Et ce courage, c'est le courage des unités. Et vous savez très bien que je reprends des principes que nous avons étudiés autrefois. Chaque homme prend comme idéal la vertu qui lui manque. Et la mise à l'épreuve d'Israël n'est pas sur telle ou telle vertu. Nous en avons hérité toutes. C'est le mérite des pères. Elle est sur la preuve de l'unité. Vous comprenez le problème? De l'unité, donc, d'après votre question, de l'unité des valeurs. Et ça, c'est surhumain. C'est ça l'histoire de Jacob et sa lutte avec l'ange. Abraham n'a pas eu à lutter avec l'ange. Il était parmi les anges. Et puis Isaac n'a pas eu à lutter avec l'ange, il était avec les anges. C'est Jacob qui a eu à lutter avec l'ange. Parce que c'est surhumain. Et au fond, on revient à des choses très simples que l'histoire dévoile. C'est surhumain d'être juif. À plus forte raison en Israël. Là, on retrouve l'endroit et le temps et le moment de l'histoire. Oui? Oui, la première, le Messie qui revient, nous renvoie à la conception d'un temps cyclique, les choses reviennent. Et alors que le Messie qui vient, c'est un temps d'engendrement. C'est un temps positif où il se passe quelque chose. Quand les choses reviennent, il ne se passe rien, puisque ça se répète. Vous vous rappelez de la phrase de l'Ecclésiaste, okay? Et en chadash tachat hashamesh. C'est ça, il ne se passe rien, il n'y a pas de chélouche. Okay? Ça se répète. Je vous conseillerais, si vous arrivez à trouver ce livre, qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais jeune étudiant à Paris, le livre de Spenger, Le déclin de l'Occident. Spenger, ok? Alors, Oscar, je vous connais. Oui, Oscar, il s'appelait. Oswald, alors, très bien. Bon, il était anti-juif consciencieux. Il n'y a aucune trace du judaïsme dans son livre, sinon comme appendice de la dialectique du Coran.
Bon. Et vous verrez.
La méthode talmudique, ben oui, c'est une petite variante juive de la dialectique coranique. Donc, c'était un Allemand. Et par hasard. Et alors, un génie de l'historiosophie. Et alors, il montre ça, que finalement, il y a des structures de l'histoire des sociétés qui se répètent. Et finalement, c'est un style folklorique évanescent et contingent qui fait la différence. Il y a un pessimisme fondamental. C'est ce même pessimisme de la grande année qui revient qui a rendu Nietzsche fou. Vous voyez de quoi je veux parler. Bon, tout ça est dans un univers tragique. Ça, c'est un messianisme qui mène à Pascal. Et à Port-Royal, c'est pas loin. Rien à voir avec la messianité juive du Messie qui vient. Une petite parenthèse de vocabulaire. C'est, nous disons, Olamazé et Olamaba. Alors, on traduit habituellement Olamazé, ce monde-ci, et Zé, si, ceci, désigne le monde. Et Olamaba, le monde à venir, Haba, celui qui vient, désigne le monde. Et une autre lecture des kabbalistes, Olamazé, ça veut dire le monde de cet homme-là, de cet homme-ci que nous sommes encore, dans ce temps embryonnaire qui passe par trois phases. Et Olamaba, c'est le monde de celui qui vient, et c'est la traduction messianique stricte, le monde de celui qui vient, Haba, celui qui est en train de venir. Et encore une fois, mais j'analyserai cela un peu plus ce soir, la différence, c'est qu'un Messie qui revient, il revient s'il veut. Et il revient par les cycles du temps cyclique. Tandis que le Messie qui vient, il ne vient que si je veux. Et parce que c'est la différence entre la messianité et le messianisme. Et en tant que théologie. Ken. Ben, il faut chercher ça du côté du mérite des juifs qui ont fécondé l'histoire au risque de s'y perdre. Et réciproquement. Non, réciproquement, n'oubliez pas cela. L'humanité a les juifs qu'elle mérite et les juifs ont l'humanité qu'ils méritent. D'ailleurs, dans le Talmud, ça va beaucoup plus loin. Les communautés ont les rabbins qu'ils méritent et les rabbins ont les communautés qu'ils méritent. Vous comprenez ce que je dis? C'est relié, réciproque et corollaire. Et vous comprenez, nous sommes à l'intérieur d'un monothéisme absolu. Et alors, bien évidemment, il y a eu une fécondation, germination de l'histoire à travers la dispersion des juifs. C'est ce que le Maharal dit. Au cosmique, c'est peut-être un peu trop loin déjà. D'un cycle historique, c'est ce que le Maharal dit. Le fruit arrive en fin de compte. Cette expression, je retrouve dans ma mémoire, cette impression de « en fin de compte » que répétait M. Ordin. Rappelle. Oui. Oui, alors voilà, le Messie vient dans tous les cas à la fin, et il vient pour moi, si je veux. Pour qui il va venir? Il viendra pour le monde, mais pour moi, si je veux. Ça me concernera si je veux. Et c'est une conduite de foi. Parce que tant qu'il n'est pas là, c'est la foi. Quand il sera là, quel mérite il y a à croire? Alors vous voyez, quel mérite il y a à croire à un Messie qui est déjà venu? Qui serait les amis. Mais à quoi vous pensez à la Shoah? Oui, mais vous croyez qu'il n'y a que les chassidim qui ont reçu ça sur le crâne? Pourquoi les chassidim? Il y avait aussi les mitnagdim, il y avait aussi les sfaradim, vous savez, Salonique, Amsterdam aussi. Non, je ne comprends pas pourquoi Bafka les chassidim. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les juifs pieux.
Dans cet endroit, il y a même temps, malheur dans cet endroit, il nous faut s'y rapprocher, ça me paraît.
Écoutez, je ne voudrais pas bifurquer dans ce sujet parce que je n'ai pas le droit de vous en parler en quelques phrases. C'est pas possible. Si vous voulez, on consacrerait une fois un séminaire à ça, et encore, j'ose pas. Hein. Peut-être que le temps n'est pas encore venu, on est trop près de l'événement. Mais ça ne fait pas du tout objection. Vous savez, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Et ce que dans un vocabulaire chrétien, on appelle le massacre des innocents, on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. On l'a pas mérité de l'éviter.
Et c'est ce que Louis Bissel disait l'autre soir à propos du livre de Job. Dans l'histoire de Job, finalement, ceux qui payent les pots cassés sont les enfants.
Non, mais ça, c'est pas l'épreuve de Job. Je ne sais pas exactement ce qu'a dit Louis Bissel, mais ça, c'est pas l'épreuve de Job. Ça, c'est le problème de la destinée des enfants. De toute façon, ils étaient mortels. C'est un autre problème. Le problème de l'épreuve de Job, non, ça passe pas son épreuve à lui. Même le Seigneur a identifié que les problèmes ne sont pas les mêmes. Ken ? Oui, pardon.
Alors, puisque vous ne savez pas m'aimer, vous devez trouver votre route. Pour trouver votre route, vous soyez vous. Vous avec vous-même et vous avec moi. Je ne puis vous aider si vous n'y arrivez pas. Ça, c'est le grand avantage. À mes yeux, c'est une mauvaise analyse. Je pense grec et je parle français. Excusez-moi, je ne peux pas.
Et vous êtes juif. C'est ça, Paris. Mais écoutez, je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous, même si je l'aurais dit dans d'autres termes, mais je suis complètement d'accord avec vous. En particulier, vous êtes en train de commenter un verset du prophète Malachi. C'est à ça que vous pensez ? Ahav ki etrem nehu machel. C'est exactement. D'accord. Bon, alors on enchaîne. Oui. Dans le plus fort. Peut-être, je ne peux pas ici répondre à la place du père Dupuis, mais je ne sais pas, peut-être. Oui,
répondre dans le sens de eux qui croient à comme nous, nous avons un
problème. Attendez, pas triangulaire comme ça. Et nuit. Non, personne n'a le droit ici de parler à la place du père Dupuis. Mais il n'y a que lui et tout juste. Je voudrais dire ceci, c'est que je ne peux pas vous répondre du nom du chrétien, au nom du chrétien, mais en tant que juif, je répondrai ceci, c'est que peut-être le chrétien pense à ceci, qu'il reviendrait pour la fonction messianique dont avaient parlé les juifs, peut-être, mais entre-temps, on a essayé une autre tentative qui mettrait entre parenthèses le souci moral. Et malheureusement, ça a entraîné les catastrophes de l'histoire. J'étais suffisamment clair. Pardon ? Mais ça fait rien, répète-la. Mais répète-la à moi, pas à lui. D'accord. Et vous voyez, cette apparence de nécessité vient de ce que nous lisons l'histoire une fois qu'elle est faite. Mais a priori, c'était évitable. Lisez bien attentivement le texte. A priori, c'était évitable. Il y a eu un fléchissement de la foi chez Abraham par Sarah, il en est sorti Ishmaël. Il y a eu un fléchissement de la foi chez Isaac, il en est sorti Ésaü. Ce sont d'autres thèmes. Mais là, je m'appuierai sur ce qu'a dit Mizrahi hier soir. Pour vous dire ceci, je le reprendrai d'ailleurs ce soir. C'est que lorsque la messianité est prise en charge par une identité non hébraïque, elle devient l'utopie. Est-ce que c'est clair? Elle devient l'utopie, et là c'est catastrophique. En fait, l'utopie dans le sens catastrophique. C'est-à-dire différer systématiquement et dans l'espace de l'au-delà et dans le lointain de d'ailleurs. Alors que la messianité juive concerne la création que le Créateur a faite, nous. Et voilà le problème. Et que la différence, si vous voulez, de différence avec un A, comme dirait Derrida, elle est dans l'être hébreu. À l'échelle individuelle, n'importe quel homme de la lignée d'Ishmaël peut être hébreu. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. Il faut changer une lettre de place. Okay. De Arar en Ever. Pour eux, c'est facile. Oui, il y a un
question
de
vous.
De Ivri à Aravi. Bon. Pour Essav, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué. Pour Essav. Mais c'est possible à l'échelle individuelle. Et en plus, j'ajouterais, pour être un peu plus complet, que pour la descendance d'Ismaël, c'est même pas nécessaire à l'échelle individuelle de devenir Israël. En tant que Ishmaël. Pour Essav, c'est nécessaire de devenir Israël. Ils ont tellement compris, les descendants de Essav, qu'ils se sont réclamés du nom d'Israël. Alors répète-la une troisième fois. C'est une solidarité a posteriori. Je répète à peu près ce que j'ai dit pour ta deuxième question. C'était peut-être la plus essentielle parce qu'elle était celle du milieu. Mais c'est une solidarité a posteriori et je crois de plus en plus profondément que c'est une solidarité humaine, d'homme, et pas une solidarité entre croyants. Bon, alors revenons au texte, il n'y a pas d'autres questions, mais rapidement, oui, parce que le Maharal nous attend. C'est beaucoup plus vaste comme problème que vous posez. Écoutez, vous posez un problème colossal d'épistémologie traditionnelle. Mais la médiation, c'est la tradition orale, c'est la mémoire. Qu'est-ce que Dieu a dit à ceux qui ont mis le livre par écrit? Pas qu'est-ce que je lis moi dans le livre, mais qu'est-ce que j'ai entendu de celui qui a entendu, qui a entendu. C'est la médiation de la tradition orale. Est-ce que c'est clair?
Entre celui qui a reçu le premier message, le plus important, la phrase fondamentale, jusqu'à nous, il n'y a pas eu toujours l'homme, l'orgueilleux, toujours en mettre un peu plus pour faire un peu plus, être un peu plus que l'autre. C'est-à-dire, je gonfle un peu le système qui nous saisit sur le fondamental du premier rapport.
Oui, je vais vous répondre à une condition. C'est que juste après, on laisse parler le Maharal. Mais vous avez raison, ça s'est passé chez qui ça s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une raison parce qu'il y a de la fausse monnaie qu'il n'y a pas de la vraie monnaie. C'est pas, vous avez entendu parler des divorces, ça existe, c'est pas une raison pour pas se marier. Vous comprenez, par exemple. Alors, on continue. Donc, alors nous étions arrivés donc à cette période, et je crois que ça valait la peine de l'analyser, entre Abraham et Ezra. Et maintenant on arrive à la fin. Vechen, Shnei Alafim Yemei HaMashiach, et de même, troisièmement, 2000 ans des jours du Messie. Alors entendez bien maintenant en hébreu. On va distinguer les deux expressions, 2000 ans de Yemei HaMashiach. Et ça veut dire les 2000 ans où le Mashiach est possible, l'advènement du Mashiach, l'avènement est possible, et d'autre part l'expression Malchut HaMashiach, la royauté du Mashiach. Okay? Ratzalomar, il a voulu dire, Shehem Meyuchadim la Mashiach, que ces 2000 ans étaient Meyuchadim, de nouveau. Oui, vous avez compris. Au dévoilement du Mashiach, Abalkodem Lechem, mais avant cela, Yepchar, pas possible chez Yavo à Mashiach, que vienne le Mashiach. Beshumofen, en aucun cas. Bechol teshuvah umaasim, quelle que soit la capacité de vertu de repentir et de bonnes œuvres, Baolam qui aurait au monde. Aucun mérite ne peut faire venir le Mashiach avant ces 2000 ans dont nous parlons. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le temps dans le développement du projet du Créateur, dans la programmation de notre histoire. Attendez, je voudrais un peu terminer, mais vous aurez la parole après. Laissez-moi terminer le texte, et après, peut-être, ce sera précis. Rak be'elu shnei alafim, uniquement dans ces deux derniers mille ans, acharonim, dernier, hem yemei HaMashiach, eux sont les temps du Messie. Chez Azman acharon, parce que, comme nous l'avons vu, le temps dernier, hu meyuchad el biyat HaMashiach, c'est ce temps-là qui est spécifique, si vous voulez, de la venue du Mashiach, ou Betoch Elouch Ne Alafim Shana, et pendant ce temps-là des deux derniers 2000 ans, Zman Akasher, je vais vous rappeler un point linguistique. Depuis que nous avons rencontré les Ashkenazim, on s'est habitué à dire Kasher. Le mot hébreu exact, c'est Kashir, pas Kasher. C'est le temps approprié, Lazé, chez Yabo Mashiach, à ce fait que le Mashiach vienne. Inid Vaer Lecha. Ainsi, il t'a été expliqué, chez Azman, chez Rumeyuchad la Mashiach, que le temps approprié au Mashiach, chez Yé, Meached et Akol, qui pourra permettre d'unir le tout. Je vais vous faire un petit jeu de mots en Midrash, mais furtif. Vous voyez, le Ached et Akol. Prenez le mot Kol, et vous ajoutez le Aleph, et il faut dire Bechat Amazon. Ochel. Meached et Akol, qui unifie le tout, vous vous rappelez le symbole du Magen David, okay? C'est à la fin des jours. Ici, pour dire à la fin des temps, le Maharal a repris l'expression des prophètes, que vous trouverez en particulier au début du deuxième chapitre d'Isaïe, je vous l'ai cité hier, relisez-le ce chapitre, Be'aya Be'acharit Hayamim. Ce Acharit Hayamim aurait pu commencer il y a 2000 ans. Ba'avonotenu sheravu yatsu mashayat. Vous me recodez à la citation du Talmud. Shehu Ashlamat Yemeola, qui est l'achèvement de la constitution de cet embryon qui va naître. Mais l'embryon ne peut pas naître au premier mois, au deuxième mois, il naît au neuvième mois normalement. Un peu avant, un peu après, mais pas plus. À la fin. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas eu déjà entre-temps des cellules messianiques. Mais ce sont des individus. Et les adorer, c'est de l'idolâtrie. C'est clair. Alors je continue. Rimken, il en résulte. Loïkshe, tu ne dois pas trouver de difficulté dans ce fait. Im kolkar, merakvin, ekvot HaMashiach. Si tellement, les talons, la fin, les talons du Mashiach ont été empêchés de se poser sur le mont des Oliviers. Merakvin, merakev, avec kaf, ekvot HaMashiach, les talons avec couf. Attention pour les hébraïs. Nous tenez, chez Azman Asheraoulo, et cela vient de ce que le temps qui lui est approprié, Raoulo, et Roube Acharon est à la fin, Minazman, du temps prévu. Veoumi Yuchadelav, et lui est spécifique. Mais d'abord, Beitomato, et il vaut mieux que les choses arrivent en leur temps. D'abord, Beitomato. Retenez cette expression qui est très courante dans l'hébreu. traditionnelle, dabar, verito, mato. Ça veut dire, les choses en leur temps, combien c'est bien. Par exemple, si vous voulez, on ne mange pas de la matzah Rosh Hashanah, il vaut mieux à Pessah. Et on ne sonne pas du chauffeur à Pessah, il vaut mieux à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, mais ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'en hiver, il fait froid, et en été, il fait chaud. Pourquoi ce n'est pas le contraire? Ça nous arrangerait. Alors, bon, je continue. Velo amru, et on n'a pas dit, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, du moins, on a dit, 2000 ans, les jours du Messie, rak, que, on ne l'a dit que, les Inyanze, que pour ce sujet, c'est-à-dire le temps où il pourrait, devrait venir, chez Efchar Labo, que c'est possible qu'il vienne, Melech HaMashiach, le roi Mashiach, Benou Shnei Alafim, dans ces 2000 ans, Benou de Kamar, et c'est cela qui est dit dans la citation, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, 2000 ans, les jours où le Messie peut venir. Velo Amar, et il n'a pas dit, Shnei Alafim Malchut HaMashiach, 2000 ans, la royauté du Messie. La royauté, c'est à la fin. La royauté, c'est quand l'universel en est capable. Est-ce que c'est clair? Velo Amar Talazé de Yamav. Et question qui reste encore, pourquoi le sujet a été relié à ces jours Yamav, pourquoi on a dit 2000 ans, les jours du Messie, et non pas les années du Messie, ou le temps du Messie, mais les jours, Yamim. Aval, la raison est, nous peinait, que Ratzaloma, il a voulu dire qu'il chenait à la fille, mais Mayamim, les 2000 ans sont les jours, chaque jour, les jours, chez Efchar Labo, où il peut venir, Bahem, en eux, à Mashiach, le Mashiach. Kikvar, car déjà, ces 2000 ans, ou Cheleka Acharon, c'est la partie dernière, Mouslo Shahalakim, des trois parties, chez Raoui, chez Yavo HaMashiach, où il est possible, bien convenable, que le Mashiach vienne, Becheleka Acharon, dans la partie dernière, Miye Merolam, des jours du monde. Et il relie à l'expression biblique, les jours du monde, Miye Merolam. Ben Israël Zochin, alors là on arrive au final, Im Israël Zochin, si Israël mérite, Shchut Gadol, un grand mérite, mais autre. Très, beaucoup. Et cherche à voir Mashiach, il est possible que le Mashiach vienne, bitrilat cheleka haron, au début de la dernière partie, mimerolam des jours du monde. Avalimenam zochim, mais s'il ne mérite pas, srut gadol, un grand mérite, et non, bah, il ne vient pas. Rak bizman shelo, il ne viendra qu'au temps qui le concerne, sheuzmano ameyuchad, qui est son temps spécifique, organique, si je veux dire, l'eau à lui. Ou Mouchanlo Beoter, préparé le plus pour lui, Kemo Shamanou le Marla, comme nous avons dit au début, c'est-à-dire à la fin. Vechaachet Tedagvek Vetavim. Et lorsque tu, Tedagvek, tu étudies avec précision, tu réfléchis avec précision, Vetavim, tu comprends, de Varimelou, ces paroles-là, Yusar Mealecha sera écarté de toi, Herpata Meharpim Ekvota Mashiach. La honte de ceux qui font honte, au talon du Messie, vous avez compris à qui veut faire allusion, hein? Il vivait en pleine période de la Renaissance, il ne pouvait pas dire ça en clair. Lechach, veismach libecha, et ton cœur se réjouira, bidvarim elou, de ces paroles, bidvarim asher amarnu, des paroles que nous avons dites, bekulam hem berurim v'amitiim, elles sont toutes claires et autant et vraies, lecholish maskil, à tout homme qui est capable de réfléchir, et encore plus a été expliqué cela dans les chapitres précédents, ou on peut dire des chapitres suivants d'ailleurs, c'est où avant ou après, Beinyan Arichut Agalut, sur le sujet de question pourquoi l'exil a duré si longtemps. L'exil a été parallèle, contemporain, de tout ce temps où le Mashiach pouvait venir. Vehem Gam Devarim Shelemet, et cela aussi sont des paroles de vérité. Bon, Cheikh Yannou, on a fini un chapitre. Top. Et alors, à partir de demain, c'est pas fini, il y a encore un peu de temps, mais à partir de demain, oui, nous avons une demi-heure pour vos questions, une minute. À partir de demain, nous continuerons les chapitres suivants, et où il y a plus essentiellement le sujet de la fonction du Messie. Bon, et finalement, le Messie, à quoi ça sert? Peut-être là, on va retrouver ta question, Eva. Bien. Alors, vous avez la parole.